Et mon épouse me disait, assez souvent, René, t'es sûr que t'as pas une migraine? Ah oui, en effet, j'ai une migraine qui démarre. Comment tu le sais? Tu sais, t'es insupportable. Et en fait, c'est exactement la même chose.
Il faut une femme qui s'ignore à ce qu'elle a dit.
Sans doute.
Pourquoi faut-il souvent attendre d'être confronté à des dysfonctionnements pour commencer à s'intéresser à son corps de femme ou d'homme? Nos cycles, notre fertilité, nos hormones et nos nuances, on les connaît si peu en fait. Je suis Lorraine Sandicic et ma mission, c'est de vous émanciper par une meilleure connaissance de votre corps. Chaque semaine, seule ou avec l'appui d'experts et d'expertes passionnés, on va vous apprendre à décrypter vos cycles, à vous autonomiser dans la gestion de votre fertilité ou de votre contraception. Bref, on va vous faire reprendre le pouvoir. Bienvenue chez Émanciper et place à l'épisode.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dédié au SPM, le syndrome prémenstruel, que je prends les paris, vous êtes assez nombreuses à connaître, hélas, parce que ça concernerait jusqu'à une femme sur deux. Et en fait, ce sont les symptômes physiques et émotionnels qu'on va ressentir avant ses règles, parfois juste après l'ovulation, pendant toute la phase post-ovulatoire pour certaines femmes, mais sinon plutôt 2, 3, 4 jours maximum avant les règles, en fin de cycle, en fait, quand les hormones commencent à chuter. Et si ce SPM, il est bien plus courant qu'on l'imagine, on a aussi beaucoup tendance à le banaliser. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus, comme si c'était un peu un mal nécessaire, une fatalité, alors que pas du tout. C'est ce que j'aimerais vous expliquer dans cet épisode, que vous allez voir, et qui va être un petit peu à deux voix. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour vous expliquer que le SPM, c'est pas quelque chose de normal. On n'est pas censé avoir une autre personnalité, souffrir avant ses règles. Une femme, elle est cyclique, donc elle est censée vivre des fluctuations et se sentir un petit peu différente selon les différentes phases de son cycle, mais ça ne doit pas amener quelque chose d'handicapant qui vient vraiment gêner le quotidien et qui vient nous faire vraiment ressentir un certain mal-être. Cet épisode, vous allez voir, il est à moitié moi toute seule et à moitié avec le professeur René Cochard, que si vous êtes habitué à écouter ce podcast, vous connaissez déjà, parce que j'ai reçu à plusieurs reprises. On a fait des épisodes sur la glaire cervicale, on a fait des épisodes sur le cycle et la lune, ou encore sur les probabilités de grossesse. Et tous les deux, on avait aussi échangé sur le SPM, parce qu'il a, en tant que chercheur, il a aussi travaillé là-dessus. Donc il a plein de choses passionnantes à nous dire. On avait fait un petit échange un peu court, donc je trouvais bien de pouvoir vous enrober un petit peu tout ça et vous apporter aussi d'autres explications. Mais donc cet épisode va alterner des moments où moi je vous raconte des choses un peu plus théoriques et où René intervient pour vous apporter son regard de chercheur par rapport à toutes les études qu'il a pu mener sur le SPM, le syndrome prémenstruel. Donc c'est parti pour l'épisode.
Vous pouvez commencer par vous présenter s'il vous plaît, ou dire ce que vous faites dans la vie.
Très bien, du coup si on parle du SPM, c'est un des deux sujets sur lesquels je travaille, alors même que, étant maintenant âgé, je suis professeur émérite à la fac de Lyon, on garde, quand on sait un peu ça, on garde le goût de la recherche et on travaille encore avec des étudiants. Évidemment que le syndrome prémenstruel fait partie des choses qui cachent la vie de certaines femmes. Donc pour moi, c'est insupportable. Pour moi, c'est une maladie orpheline. Et il faut absolument qu'on travaille sur ce syndrome de manière à libérer les femmes de ce syndrome et ne pas supprimer les cycles, qui est une richesse merveilleuse de la femme, pour soulager les sperme. On doit trouver comment améliorer, guérir, empêcher ce symptôme. Et donc, en effet, ce qui est une promotion de la femme, sans, à l'évidence.
Il faut la libérer.
Eh bien, bien sûr.
Peut être très loin.
Voilà.
Est-ce qu'on pouvait peut-être commencer par le définir un peu, parce que avant d'en parler, il y a plein de fantasmes autour du SPM. C'est quoi en fait?
Je crois qu'il faut bien distinguer le SPM des douleurs des règles. Mmh. Ça n'a rien à voir. Les menstruations peuvent être douloureuses. Ça s'appelle la dysménorrhée. Tandis que syndrome prémenstruel, comme son nom l'indique, ce sont des troubles, des ennuis, des difficultés avant les règles qui peuvent durer 3 jours, mais qui peuvent durer 7 jours. Et moi, j'ai eu des patientes pour qui ça commençait dès l'ovulation. C'est rare, heureusement, mais... Donc, en somme, pendant plusieurs jours, la femme est très gênée. Elle est très gênée dans sa vie. Hein. Par exemple, parfois, c'est que tout leur semble insupportable. Les gens les insupportent, les situations les insupportent. Elles savent bien que c'est elles. Ouais. Elles n'y peuvent rien. Et à titre personnel, je suis migraineux. Eh bien, le syndrome de prodrome, ce qu'il y a avant la migraine, c'est comme le syndrome prémenstruel. C'est-à-dire
vous comprenez, René, c'est ça que vous voulez
dire. Oui, mais mon épouse me disait assez souvent, René, t'es sûr que t'as pas une migraine? Ah oui, en effet, j'ai bien qu'il y en a. Comment tu sais? Tu sais, t'es insupportable. Et en fait, c'est exactement la même chose.
Il faut qu'une femme qui s'ignore est-ce qu'elle...
Sans doute. Hein. C'est qu'en fait, le syndrome menstruel peut être, donc comme j'essaie de le dire déjà, peut être des troubles psychologiques. La situation est difficile à supporter. Ou alors, c'est des choses physiques. Hein, c'est-à-dire que ça peut être, au point de vue alimentaire, le besoin de manger très fort, d'autres choses différentes du reste du cycle. Ou alors, des choses de plus, de gonflement, telle partie du corps, les jambes, la poitrine, le ventre, qui gonfle à ce moment-là. Bon, ben, tout ça, c'est quand même pas rigolo.
Mm-hmm. Et les migraines.
Et les migraines. Ben, c'est plus rare, mais ça existe. Mm-hmm. Les migraines, et Isabelle, ma femme, on a soigné avec beaucoup de succès. Donc, en somme, le syndrome prémenstruel, est fréquent. Alors, les pourcentages, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'en fait, beaucoup de femmes ont au moins un symptôme. Mm-hmm. Mais on compte comme vraiment problématique quand il y a, ça dure 3 jours ou plus.
D'accord.
C'est toujours en plus. Ou alors, ça dure peu de temps, mais c'est très fort. Hein, si je suis pas bien une demi-heure, je vais supporter. Mais si je ne suis pas bien 3 jours, très mal un jour, je peux pas aller au travail, quand même, il y a de quoi s'en occuper.
Ouais.
C'est ça, le syndrome prémenstruel, sur lequel on travaille.
Oui, il y a peut-être un souci de banalisation, où il y a beaucoup de femmes qui, en fait, pensent que c'est, ça fait partie de, du lot.
Et ça, pourtant, ça ne fait pas partie. C'est fréquent, bien sûr, très fréquent, mais ce n'est pas la féminité. Nous, on a, aux élos, en Australie, cela a été mesuré chez un peu plus de 2000 femmes. Et pour un peu plus de 800 d'entre elles, on a en plus les dosages hormonaux. Donc c'est passionnant, hein. On a, comme cela, donc, des mesures sur 11 critères. 11 types de troubles, c'est ceux qui sont officiellement décrits dans lequel.
C'est à la fois émotionnel et physique.
Et physique, voilà.
Okay.
Beaucoup plus d'émotionnel que de physique.
Donc, bien stabilité, mais de
voilà. Ouais. Et donc, quelle grande chose on peut dire? Ben, c'est qu'il n'y a pas de lien entre le physique et l'émotionnel. Il y a des personnes qui ont des troubles physiques qui gonflent, qui n'ont pas du tout de troubles émotionnels. Et des personnes qui ont des troubles émotionnels et qui ne gonflent pas du tout. Pardon, c'est pas la même chose.
Ouais.
Il n'y a donc pas de lien, mais il y a quand même beaucoup de symptômes, à peu près 150 qu'on répertorie, et les femmes vont avoir plutôt des symptômes physiques, plutôt émotionnels, peut-être parfois un peu les deux, mais les principaux qu'on va observer au niveau des symptômes physiques, c'est des douleurs utérines, des douleurs lombaires, des tensions mammaires, des migraines, beaucoup de fringales aussi, de la fatigue, voilà, tout plein de choses dans le corps, et puis les symptômes plus psychologiques, émotionnels, avec de l'irritabilité, de l'anxiété, une certaine mauvaise humeur, de la tristesse, un sommeil perturbé aussi. Voilà, c'est un peu ça les deux grands tableaux. Et en fait, selon les femmes, on va avoir plutôt des symptômes physiques, plutôt des symptômes émotionnels ou parfois un petit peu des deux. Par exemple, des tensions mammaires et une certaine irritabilité et un sommeil perturbé. Ça, c'est moi. Et puis pour d'autres, voilà, on compose un peu son petit truc. Mais encore une fois, si on est censé ressentir un petit peu ces différences, avoir les seins un petit peu plus tendus, se sentir un peu plus à fleur de peau, ça doit rester normalement modéré. Quand ça prend une place un peu trop importante, on est dans le STM et dans quelque chose qu'on peut apaiser, soulager. J'en profite pour faire une parenthèse sur une autre forme de SPM qui est le trouble dysphorique prémenstruel qu'on appelle le TDPM et qui là en fait correspond à des symptômes émotionnels qui sont graves, qui vont vraiment perturber la vie quotidienne. Et en fait là, on est sur un sujet de vraie santé mentale qui doit être accompagné par des experts de la psychologie et de la psychiatrie parce que en fait on va aller au-delà du SPM et on va avoir des symptômes comme une humeur dépressive vraiment marquée, du désespoir, de l'autodépréciation, parfois même des envies de suicide. Une anxiété très forte, de la tension, une colère, etc. Et là, en fait, si c'est ce que vous ressentez, vraiment, je vous conseille de vous faire accompagner, d'aller voir un professionnel, un psychologue, un psychiatre, etc. Ça, c'est quelque chose qui doit être soigné. Et il ne faut surtout pas rester seul avec le TDPM. Le SPM, on peut avoir des symptômes émotionnels, de l'anxiété, d'irritabilité, mais ça ne va pas aller jusqu'à cette envie vraiment d'en finir, parfois, qui existe pour certaines femmes. Et si c'est votre cas, je suis de tout cœur avec vous parce que je pense que c'est quelque chose de très difficile. Quoi qu'il en soit, comment on reconnaît le SPM? C'est que vous l'avez compris, ce sont des symptômes qui vont intervenir avant les règles, a priori quelques jours avant les règles, et qui vont diminuer au début des règles. Donc c'est pour ça que c'est ce que nous a expliqué René tout à l'heure, c'est bien différent des douleurs de règles. Là, on est sur des choses de fin de cycle, qui sont liées à la chute d'hormones de fin de cycle. Moi, je parle souvent du sevrage hormonal qu'on doit vivre en fin de cycle, où on a été baigné par des hormones pendant plusieurs semaines, et d'un coup, tout ça se casse la figure, et c'est vertigineux. Donc c'est ça le SPM, c'est ce qui est avant les règles, et pour beaucoup de femmes, moi j'en fais partie, on est libérées par les règles qui arrivent, on a hâte et les règles arrivent pour se retrouver et ne plus être dans cette descente, mais voilà, être de nouveau posée tranquillement et retrouver un petit peu son calme après la tempête. Donc voilà, le SPM, il doit vraiment disparaître avec les règles et il va interférer un petit peu avec les activités quotidiennes. S'il interfère beaucoup, on va plutôt être dans le TDPM, mais sinon, on va être dans le SPM, sachant que dans un cycle équilibré normal, encore une fois, on est censé ressentir ces fluctuations, mais que ça n'interfère pas vraiment avec son quotidien. Tout ceci étant expliqué, maintenant j'aimerais qu'on parle des causes du SPM. C'est un petit peu l'objet de ce podcast et c'est un objet pas facile parce qu'en fait ça a été très peu étudié, il n'y a pas énormément de recherches là-dessus, donc on ne sait pas vraiment, on ne peut pas vous dire il y a une cause du SPM, ça n'existe pas. Mais en fait, René comme moi, on en compte quatre principales qu'on va vous détailler ensemble. La première, c'est tout ce qui est lié à la progestérone, à l'équilibre en fait entre les œstrogènes et la progestérone en deuxième partie de cycle. Ça, c'est un gros dossier du SPM. Après, il y en a un qui est moins connu. C'est tout ce qui est lié à la sécrétion d'endorphines et de sérotonine. Vous savez, c'est neurotransmetteur du bonheur, du plaisir, de la bonne humeur. Et ben, vous verrez avec les études que va vous citer René, il y a un lien entre carence entre endorphines, sérotonine et syndrome prémenstruel. Après, il y a tout ce qui touche un peu plus à l'alimentation, notamment à l'inflammation. Et ça peut activer le SPM, on va en parler. Et puis à la fin, de façon un petit peu plus marginale, tout ce qui touche à l'équilibre hormonal plus global, au sommeil, à la thyroïde, etc. Où là, ça peut venir influer aussi sur le cycle et du coup sur les symptômes de fin de cycle. Mais sinon, voilà, c'est un peu ça les quatre grands dossiers dont on va parler. Tout ce qui touche à la progestérone, tout ce qui touche aux neurotransmetteurs, sérotonine, endorphine, tout ce qui touche à l'alimentation, à l'hygiène de vie anti-inflammatoire, enfin inflammatoire du coup en cas de SPM, et tout ce qui touche un petit peu plus à l'équilibre hormonal global. On commence avec le déséquilibre hormonal, l'hyperœstrogénie, donc trop d'œstrogènes, ou la carence en progestérone, mais dans tous les cas, le déséquilibre entre ces deux hormones de fin de cycle. Là, je vous laisse avec René qui va vous expliquer tout ça hyper bien.
Tous les troubles décrits par les femmes dans notre étude, donc, pour lesquels on a plus de 800 femmes, on a les deux agents hormonaux, eh bien, tous les troubles sont plus fréquents quand la progestérone est basse. C'est-à-dire qu'en fait, on ne le savait pas, hein, on l'a publié donc en 23, on savait que depuis toujours, il y en a des années, ça a à voir quelque chose avec la progestérone. Mmh. En effet, sans progestérone ou sans progestatif, il n'y a pas de syndrome prémenstruel. Et une personne à qui on supprime, dont on supprime la progestérone et à qui on ne donne pas de progestatif, c'est-à-dire qu'on ne donne pas de contraceptif, il n'y a pas de syndrome prémenstruel. Le syndrome prémenstruel est vraiment lié à la progestérone ou au progestatif. Sans progestérone ni progestatif, pas de syndrome prémenstruel. Par contre...
Est-ce que peut-être on peut faire une micro-parenthèse pour vous dire, pour ceux qui ne connaissent pas, ce que c'est la progestérone
La progestérone, c'est l'hormone qui est sécrétée à partir de l'ovulation chez la femme et qui vise à rendre la femme mère potentiellement. Mmh. Et si une grossesse, un enfant a été conçu, permet le développement de la grossesse.
Ouais.
Ça développe la maternité, cette dimension de la femme, et ça permet d'accueillir l'enfant. Et ça, la femme, on a donc à chaque cycle.
Enfin, deuxième partie
du cycle, après l'ovulation. Mmh. Et si elle est sous pilule, elle n'a pas de progestérone, mais elle a des progestatifs. Toutes les pilules comportent un progestatif. Et donc, du coup, la pilule ne soulage pas le syndrome prémenstruel chez nombre de femmes.
Right.
Une femme, il y a des personnes qui sont améliorées sous pilule, mais ce n'est pas du tout le cas de toutes, pour la bonne raison que le progestatif fait la même chose.
Voilà. Et donc, avant que j'ouvre cette parenthèse, mais c'est quand même important, je pense que tout le monde n'a pas forcément les connaissances, vous disiez donc c'était lié à la progestérone. Est-ce que c'est lié à une progestérone dans la mauvaise quantité, enfin pas suffisamment sécrétée, ou qui chute trop vite, ou...
C'est ça. C'est-à-dire, en somme, si vous voulez, sans progestérone, on disait pas de syndrome prémenstruel. Mais chez beaucoup, pas chez toutes, chez beaucoup de femmes qui ont un syndrome prémenstruel, on note une progestérone un peu basse.
Ouais.
Et ça, c'est sans équivoque, parce que plus de 800 femmes, c'est riche.
Ouais.
Et donc, ce n'est pas chez toutes. Sous-entendu, on peut avoir une progestérone normale et un syndrome prémenstruel. On peut avoir une progestérone basse, pas de syndrome prémenstruel. Cependant, en moyenne, donc il faut toujours vérifier la progestérone si on souffre d'un syndrome prémenstruel. Enfin, le syndrome prémenstruel, on ne sait pas encore tout faire, bien loin de là. Mais ce qu'on sait, c'est que certaines femmes qui avaient un syndrome prémenstruel sont améliorées quand elles prennent de la progestérone naturelle. D'autres, non.
Et donc, si je récapitule, on peut, le SPM, c'est multifactoriel, on peut creuser la fille de la progestérone.
Oui.
Si on voit qu'elle est insuffisante, insuffisante, c'est quoi? C'est, on la dose plutôt 7 jours après l'ovulation?
On la dose 7 jours après l'ovulation, et si c'est un syndrome prémenstruel, on la redose à 9 jours après l'ovulation.
Okay.
Et si la chute entre 7 et 9 est franche, alors là, il faut la progestérone.
Okay.
Et s'il y a une chute franche de la progestérone entre le 7e et 9e jour, voire même le 7e, 11e jour, mais c'est de la 9e jour, là, franchement, faut réagir.
Et c'est quoi une chute franche?
Eh bien, c'est de la moitié.
Ah, oui, ok.
Ben, là, il faut, ben, hésiter, il faut mettre un peu de stress.
Ok. Bon, je que vous allez m'en donner.
Deuxième grande cause, très peu connue, mais hyper intéressante et je suis heureuse qu'on l'aborde dans cet épisode, tout ce qui touche à la carence en sérotonine et en endorphine. Donc, vous l'avez compris, c'est des neurotransmetteurs qui sont sécrétés grâce à, notamment à l'activité physique, au plaisir, etc. Et des études ont montré qu'une carence en sérotonine et ou en endorphine allait impacter l'humeur et allait avoir, par effet domino, un impact sur le syndrome prémenstruel. Et donc, il y a des liens entre un manque de sérotonine et un SPM prononcé. J'étais déjà documentée dans la littérature médicale, je vous mettrai toutes les études en dessous, et il y a de nouvelles études, et c'est là que je vous laisse avec René qui va vous expliquer celle que lui, il a menée. C'est hyper intéressant, vous allez voir.
La femme qui a un syndrome prémenstruel manque d'endorphine. L'endorphine, comme son nom l'indique, c'est un peu comme une morphine qu'on fabrique nous-mêmes.
Ouais.
C'est-à-dire que notre bien-être, parmi les éléments du bien-être, sérotonine, dopamine, il y a les endorphines qui participent à notre bien-être. Et les femmes qui ont un syndrome prémenstruel ont un manque d'endorphines. Cela a été montré. Et donc, on essaie de monter les endorphines. Une des manières de monter les endorphines, c'est donc l'activité sportive. Et dans certains pays, on utilise autre chose pour monter les endorphines. Quand le sport n'a pas marché, quand la progestérone n'a pas marché, on donne de la naltrexone, à faible dose, très faible dose, c'est presque homéopathique, pour que la femme fabrique ses endorphines. On déclenche un manque d'endorphines par la naltrexone à faible dose, très faible dose, ça déclenche un petit manque. Elle réagit pendant la nuit, elle prend ça le soir, elle réagit pendant la nuit.
Bref, il ne faut pas du tout négliger l'impact du stress et des émotions dans le SPM, parce que vous le savez, le cycle il démarre dans le cerveau, dans l'hypothalamus et l'hypophyse, et en fait, quand ces zones du cerveau sont un petit peu embouteillées, se retrouvent dans une ambiance un peu trop grise, avec pas assez de stimulation, etc., et ben, par effet domino, ça va venir impacter le cycle et donc impacter le SPM. Là-dessus, vraiment, René l'a expliqué, je le redis, l'importance du sport, l'importance de l'activité physique pour sécréter ces neurotransmetteurs et pour, du coup, venir vraiment combler cette carence et faire remonter le niveau émotionnel de la fin de cycle, puisque vous l'avez bien compris, il y a un lien entre cette carence et le SPM. On a ensuite tout un sujet hygiène de vie, alimentation et notamment inflammation, puisqu'on a remarqué qu'une inflammation sous-jacente, notamment à cause des prostaglandines pro-inflammatoires, pouvait être l'origine d'un syndrome prémenstruel. Il y a aussi tout ce qui touche aux carences nutritionnelles en magnésium, en vitamine D, en oméga 3. Je vous mettrai des études en dessous, mais il y a des études pour chacun de ces nutriments qui ont pu être liés quand ils sont en carence avec un SPM. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi. Et c'est ce qui montre, René vous l'explique aussi, en quoi l'hygiène de vie peut vraiment venir apaiser grandement le SPM.
Le syndrome prémenstruel est en moyenne diminué lorsque la femme a une activité sportive régulière, franche. Pas juste je me balade ou je fais la cuisine, je vais au salon manger, etc. Ça, c'est pas du sport.
C'est-à-dire,
faire du sport, une activité sportive qui, quelque part, fait mal de cœur, en fait, c'est le critère. Hein.
Okay.
C'est pas de la gym douce comme ça, c'est quelque chose qui fait mal de cœur. Eh bien, si c'est fait, donc régulièrement...
C'est possible ou pendant la période
alors, l'étude a été faite sans distinguer la notion obligatoire.
Okay.
Mais nous, personnellement, ils avaient les droits, on conseille de l'intensifier
la
croix obligatoire. Une des manières de monter les endorphines, c'est donc l'activité sportive. L'activité sportive, merveilleux, on a toujours pas mis de médicaments.
Ouais.
D'autres, il y aura besoin d'un apport extérieur de progestérone. Donc, c'est alimentaire l'amélioration. Il y a des personnes qui, par l'alimentation, les micronutriments, parviennent à améliorer.
Moi, j'insiste toujours beaucoup là-dessus, c'est même la base, l'activité physique, l'hygiène de vie, parce que vraiment, grâce à ça, on peut vraiment faire retomber ce syndrome de fin de cycle. Et la quatrième et dernière chose dont je voulais qu'on parle, c'est un petit peu plus anecdotique, mais c'est tout ce qui touche à un petit peu notre équilibre plus global. En vrai, c'est assez lié avec la sérotonine et les endorphines, mais c'est tout ce qu'on peut faire pour améliorer son équilibre hormonal global. Il y a plein de sujets sur la thyroïde, etc., dont on ne va pas parler dans cet épisode-là, mais on pourra en reparler. Et puis, tout ce qui touche au sommeil. Et là, pareil, il y a eu des études là-dessus. René vous les explique, notamment sur le sommeil dans le noir et le SPM, et c'est passionnant.
Parfois, c'est en faisant la nuit total dans la chambre. Il y a des femmes, et c'est une personne américaine, qui soigne beaucoup de femmes en supprimant toute lumière dans la chambre. Mais bien entendu, pas toutes. Mmh. Mais certaines vont être très améliorées. Le critère,
c'est... En ayant un équilibre hormonal plus respecté, moi.
Alors, ça va améliorer leur cycle, pas chez toutes, mais chez certaines, et du coup, leur symptôme prémenstruel diminue.
Voilà, le SPM, il peut venir de toutes ces causes, d'une seule à la fois, souvent elles sont imbriquées, etc. Mais c'est vraiment là-dessus qu'on peut creuser la progestérone, la sérotonine et les endorphines, l'alimentation anti-inflammatoire et le sommeil, l'équilibre hormonal global. C'est vraiment ça les pistes sur lesquelles on peut travailler. C'est celles sur lesquelles nous, on travaille évidemment beaucoup. Et dans le Moody Club, tu vas arriver très vite, qui est un programme sur lequel on a beaucoup bossé pour vous aider à apaiser votre SPM et votre SPO aussi, parce que ce n'est pas l'objet de cet épisode, mais il y a aussi des femmes qui ressentent tous ces symptômes au moment de l'ovulation. Moi, j'appelle ça le SPO, syndrome périovulatoire, mais on l'aborde aussi beaucoup, si c'est votre cas, dans le Moody Club. Mais sinon, comment on diagnostique le SPM? C'est un petit peu là le gros sujet, parce qu'il n'y a pas vraiment de diagnostic médical. Moi, ce que je conseille, c'est de vraiment tenir un journal de bord, de traquer ces symptômes pour éventuellement appeler vers des connexions en disant, tel symptôme revient toujours à tel moment. Mes douleurs au sein, c'est toujours 2 jours avant mes règles. Mon irritabilité, c'est toujours, ça commence 4-5 jours avant, etc. Et c'est comme ça, en fait, qu'on peut faire des connexions et derrière, pouvoir se dire, OK, c'est lié à telle ou telle cause puisque ça arrive à tel moment, pour telle raison. C'est révélé par ça. Si à chaque fois que vous buvez, par exemple, de l'alcool, ça va accentuer votre SPM. Si à chaque fois que vous dormez mal, ça va accentuer votre SPM. Voilà, vous allez faire des connexions. Et c'est vraiment par ce tracking, ce journaling qu'on va s'en sortir. Dans le Moody Club, donc vous verrez, vous avez un carnet qui vous permet de tout suivre comme ça, d'être vraiment à un espèce de géotrouve-tout de votre corps, de vos symptômes, d'être vraiment à l'écoute du langage de votre corps, des messages qu'il vous envoie pour pouvoir comprendre votre SPM et travailler dessus, puisque dans le club, évidemment, il y a plein de plans d'action aussi. C'était une parenthèse. Est-ce qu'on peut faire des prises de sang aussi? Oui, on peut doser la progestérone. René en a parlé. On peut voir notamment quand il y a une vraie cassure sur la progestérone après le 7e jour du cycle, mais c'est pas quelque chose qui est beaucoup pratiqué. Donc, c'est pas évident de se le faire prescrire. Et encore une fois, vous l'avez compris, la progestérone n'explique pas tout non plus. Donc, c'est pas la seule chose à regarder. C'est plus de la symptomatologie, de l'écoute de ces symptômes qui va vous aider à vous comprendre et après à vous apaiser. Mais parlez-en avec votre soignant, votre médecin traitant, votre gynéco, votre sage-femme. Et si vous ne recevez pas les coups dont vous avez besoin, n'hésitez pas à chercher un deuxième avis. Il y a plein de professionnels de santé très bien qui comprennent de mieux en mieux le SPM. Et c'est d'autant plus important si vous soupçonnez un TDPM. Là, je le répète, mais vraiment, allez consulter, faites-vous aider. S'agissant des traitements, alors il y a quelques traitements médicaux, le principal étant la pilule, puisqu'on va chercher à éteindre le cycle pour qu'il ne soit plus accompagné de ses symptômes, de ses effets secondaires. Il y en a qui vont aussi prendre des antidépresseurs ou de la progestérone de synthèse, on en a parlé avec René. Tout ça, ça va soulager, mais ça ne va pas vraiment traiter la cause. Ça va éteindre le cycle, ça va cacher des symptômes, mais le symptôme reviendra si on arrête le traitement. Donc, ça peut être plus intéressant de vraiment venir travailler sur la cause, sur l'hygiène de vie, vous l'avez compris, sur le sommeil, sur l'alimentation. Avoir une alimentation la plus anti-inflammatoire possible, riche en légumes, en fruits, en antioxydants, en bons gras, en protéines. Aussi, ne pas hésiter à se supplémenter en magnésium, en vitamine D, en vitamine B6, en oméga-3 si vous n'en avez pas assez dans votre alimentation. Il y a plein de plantes aussi qu'on peut prendre. Ça, je ne rentre pas dans les détails parce qu'il faudrait que je vous donne les posologies, etc. Et c'est propre à chacune. Mais tout ça, c'est des choses qu'on aborde évidemment en détail dans le Moody Club si ça vous intéresse. Le gros sujet, j'en ai déjà parlé, mais vraiment, en tout cas pour moi, ça m'a changé la vie, c'est l'activité physique pour évacuer le stress, apaiser les douleurs, mais aussi surtout, et compris pour sécréter des endorphines, de la sérotonine, et du coup, combler cette carence qui peut expliquer votre SPM. Et puis après, il y a toute une dimension aussi, bien sûr, émotionnelle, de relaxation, de lecture, de tout ce qu'on peut faire pour s'apaiser. Voilà, je crois que vous avez dit le principal sur le SPM. J'espère que les petites interventions de René vous auront permis aussi d'avoir toutes ces infos sur la recherche et les études qui sont menées et qui sont hyper intéressantes. En tout cas, moi, si je peux vous faire un retour, c'est le jour et la nuit quand je prends soin de mon corps, quand je fais du sport, quand je fais attention à mon sommeil, quand je mange bien, quand je fais attention à l'alcool en période prémenstruelle, etc. Bref, clairement, je ne suis pas la même personne avant mes règles selon ce que j'ai mis en place. Donc, je suis un excellent cobaye. Et en général, quand j'aborde des sujets, c'est que je les ai testés sur moi avant. Et là-dessus, sur le SPM, c'est absolument passionnant à quel point on peut vraiment se soulager et mieux vivre cette période de son cycle. Donc voilà, encore une fois, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien pour le Moody Cup qui va arriver très vite. Je le rappelle, le SPM, c'est ni normal, ni une fatalité. C'est quelque chose qu'on peut apaiser. Moi, je vous encourage vraiment à apprendre à écouter votre corps, à suivre vos symptômes, écouter les messages qu'il vous envoie, à les traquer, à les noter, à faire les liens avec votre cycle, etc. Parce que vous verrez que vous ferez plein de connexions et que c'est de ces connexions que vous allez comprendre d'où vient votre SPM et vous allez savoir comment l'apaiser. Il y a une petite phrase avec laquelle je voulais vous laisser, que m'a dit René, une sorte d'appel à la vulnérabilité, mais aussi à la lucidité vis-à-vis de son SPM. Je vous laisse avec elle.
C'est un appel à respecter la vulnérabilité. Moi, il n'y a pas de vie sans vulnérabilité. Il n'y a pas de beauté sans vulnérabilité. Donc, ce moment de panique, lorsqu'il est pris délicatement, comme disent les Allemands, « keine Rose ohne Dirndl », il n'y a pas de rose sans épines. On ne peut pas avoir la beauté, on ne peut pas avoir des fleurs sans changer l'eau des bases. Et bien pour moi, le syndrome prémenstruel, c'est un appel à accueillir la délicatesse, la vulnérabilité, vous voyez. Donc je ne serais pas scandalisé qu'on dise que dans le fond, cette chute de forme, la veille des règles sur les règles, et bien voilà, c'est une richesse.
Ouais. Ouais, c'est une richesse, mais ça, voilà, quand elle est physiologique comme ça, elle est liée à ce départ des hormones, ce départ de la progestérone.
Quand elle est violente.
Quand elle est violente et dure trop longtemps, là, c'est plutôt.
Parce qu'il faut que la femme n'en devienne pas prisonnière, dépendante. Handicapé.
Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, qui vous a permis de comprendre à la fois que votre SPM ne devait pas guider votre vie et que vous ne deviez pas le subir, que vous pouviez agir vis-à-vis de lui si il vous concerne, qu'il y avait aussi plein de pistes à creuser, même s'il n'y a pas aujourd'hui un diagnostic établi, il y a quand même plein de petites choses sur lesquelles vous pouvez aller travailler. En tout cas, nous, on est là pour ça. N'hésitez pas à venir en parler si vous avez besoin d'être accompagné. Et puis, je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme d'hab, si vous voulez aller mettre des notes, des commentaires, des pouces, ça nous aide énormément. Donc, merci d'avance pour ça. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans un prochain épisode.
Émancipé.
Émancipé. Émancipé.